the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Génération Sport. Voilà, les saisons sportives arrivent à leur fin. On va donc arriver à l'heure des débriefs. Et pour débriefer avec moi ce soir, Alex qui est avec nous. Salut Alex.
Salut Faustin, comment ça va?
Bah ça va très bien et toi?
Eh bah écoute, c'est la forme.
Bah super.
Même si le pollen nous fait du mal en ce moment.
On est ensemble, ouais.
Pour tous les allergiques, grosse pensée à tout le monde.
Ouais, avec nous aussi ce soir, Mathéo. Salut Mathéo.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Eh bah, je vais dire la même chose qu'Alex, le pollen me fait du mal en ce moment.
Bah, oui.
C'est très bien d'avoir du soleil, malheureusement, voilà, on a quelques graminées qui traînent et qui viennent nous titiller les yeux. Et ça, c'est pas agréable.
On aura tous les yeux rouges et les sinus pleins à la fin de
faut pas venir dans le studio, là. C'est terrifiant.
Voilà, est-ce que Cédric, qui est avec nous aussi ce soir, est dérangé par les pollens?
Non, ça va, moi je suis pas dans cette catégorie. Hein. Je serais plus dérangé à la rigueur par les fortes chaleurs qui arrivent d'un coup. Quand t'es enfermé toute une journée dans un bureau,
forcément.
T'as beau avoir la clim, tu fais toujours trop chaud.
C'est clair.
Et sinon, sportivement, Cédric, t'as pu suivre des belles actus cette semaine et les semaines dernières?
Bah écoute, ça fait quasiment un mois là que j'étais pas revenu, donc on a eu le temps de suivre un petit peu ça. Alors, moins quand même qu'à l'habitude, sur, avec la fatigue du travail et les horaires, mais l'essentiel des gros événements ont été vus.
Bah parfait, on va commencer.
On parlera pas des douloureuses en Ligue des Champions hein, de Barcelone.
Non, on a déjà parlé.
Ah, c'est vrai.
On a déjà parlé.
Ah, dommage.
On peut en parler après.
J'aurais aimé être là la semaine dernière.
On a un programme chargé.
C'est dommage.
On n'aura pas le temps d'y revenir, malheureusement. On pourra revenir sur le sacre, si vous voulez, du FC Barcelone. Il y a pas de souci là-dessus.
Non, c'est trop vieux comme info.
Mais c'est trop habituel.
Ouais, c'est vrai que c'est habituel. Mais bref, on va du coup sans plus tarder commencer par les actualités locales et le basket à l'UFAB. Après les départs, ce sont les arrivées qui s'enchaînent avec quatre nouvelles joueuses annoncées. D'abord Batabe Sambare qui évoluait à Lublin en Pologne la saison dernière. On a ensuite appris l'arrivée de la meneuse Marine Debeau qui jouait à Chartres depuis quatre saisons. Le lendemain, c'est Eve Maoutou qui évoluait elle aussi à Chartres. Et enfin, l'arrivée de la poste 5, Rosane Le Seyec qui évoluait elle aussi à Chartres. Voilà, donc tout s'est fait très rapidement entre les resignatures, les départs et les arrivées du côté de l'UFAB. Il y en a sûrement quelques-unes en plus qui vont arriver, Alex. Qu'est-ce que tu penses de ce mercato?
Donc tu as dit, je crois qu'il y a 4 joueuses qui vont rester.
Je l'ai plus.
Je crois qu'il y a à peu près 4 joueuses qui vont rester, notamment Marine Dursus.
Tout à fait.
Qui est un peu un potentiel qui était venu juste après la CAN, en tout cas dans cette volonté de post-former la joueuse.
Ouais.
C'est ça au pôle fédéral. Mais ouais, donc c'est une bonne conservation. Grosse pensée aussi pour Anna Njok. Parce que c'est une joueuse qui est un peu la leader, j'ai l'impression, moi qui suis allé voir donc deux fois l'UFAB cette saison, la leader de cette équipe, bah déjà qui est la meneuse et puis on voit sur le terrain qu'elle a une personnalité, donc c'est hyper cool pour l'UFAB de pouvoir conserver des piliers de leur effectif. Je crois qu'elles ont perdu quand même Almaris Alston qui est un peu la meilleure joueuse, meilleure scoreuse. Donc voilà, non, franchement, il y a quand même un peu de continuité. On sait que dans ces clubs-là, de cette échelle-là, c'est quand même compliqué de garder les effectifs le plus possible. On sait que, bah, les années précédentes, justement, l'UFAB perdait parfois 90%, voire 100% de son effectif.
C'était flagrant.
C'est ça, c'était assez flagrant. En plus, je crois que cette saison, oui, c'est ça.
Il y a juste Axel Merceron et Herman Dursus qui étaient là l'année d'avant.
Et là, pour le coup, il y a un peu plus de monde. Donc, ça fait plaisir pour l'UFAB qui a fait une très belle saison. On le rappelle, on a échoué, on l'a vécu ensemble à l'antenne. On a échoué à un point de la demi-finale. Donc non, bah c'est un, je pense un bon mercato. Donc comme tu disais, on récupère plusieurs joueuses de Chartres.
Ça, trois joueuses de Chartres.
Trois joueuses de Chartres qui redescendent, donc qui ont quand même l'expérience de la LFB.
Ouais.
Et je pense qu'on a cœur de prendre un peu leur revanche sur la saison prochaine.
Et voilà pour l'UFAB, donc il y a quatre joueurs qui ont été annoncés comme qui restent au club, qui re-signent, quatre joueuses qui sont parties et quatre joueuses qui sont arrivées. Donc on peut dire que le mercato est complètement fait déjà au bout de seulement deux semaines après la fin de la saison.
Ouais, enfin c'est habituel en toute façon.
Oui, c'est très tôt.
Généralement ouais, dès le début de la saison, certaines joueuses qui prennent pour deux ans quand c'est des, on va dire, des top ouais. joueuses ou qui sont vraiment issues, bah, soit de la poule, enfin pas de la poule, mais de l'expérience équipe de France plus jeune, tout ça, qui viennent faire leurs armes à Angers. On sait que généralement dans les deux, par trois années derrière, c'est quasiment sûr au bout de leur contrat, elles partent parce que elles prennent tellement en expérience et en maturité de jeu que les plus gros clubs sont tout de suite intéressés.
Justement, je voulais mentionner Lacan, qui vient d'être donc ancienne Angevine, qui vient quand même d'être sacrée championne de France avec Basketland.
Ouais.
Et un ancien Angevin aussi qui a été du côté de Mont-de-Marsan et qui a commenté ses finales. C'est Max, à qui je passe le bonjour. Il a commenté pour ici Gascogne les finales de Basketland et c'était une vraie ambiance. Il a fait bien vivre ça. Et ouais,
il nous a même pas invité pour qu'on le soutienne.
Non, mais oui, mais c'était pour le coup, c'était vraiment des belles finales, super ambiance. Et puis, franchement, bravo à Basketland. C'est un beau titre. Et puis surtout à Tarbes, qui a créé la grosse surprise quand même, parce que c'est huitième de phase régulière et elles ont sorti quand même Bourges et Flamme Carolo. Ouais. Et elles ont gagné le match 1 contre Basketland. Donc c'était quand même une grosse surprise. Donc voilà.
J'ai l'impression que la saison cette année était la bizarre. Saison de toutes les possibilités.
Ouais, très bizarre.
Le championnat, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant à suivre.
C'est plus ouvert.
Plus ouvert.
Il y a Villeneuve-d'Ascq, on est d'accord, elles sont championnes l'année dernière.
Oui, il me semble.
Et elles ont joué les Playdown.
Playdown, ouais.
Donc,
avant, on avait vraiment un écart. On avait un top 4 ou un top 5, je me rappelle plus, de vraiment 5 équipes qui étaient largement au-dessus du lot. Et après, c'était serré. Et là, tout se mélangeait. C'était,
Le début de saison de l'UFAB où elles sont deuxième ou première au bout de 7-8 journées. C'est quand même, c'est assez ouvert. Mais c'est mieux, c'est bien pour le championnat.
C'est ça, ça prouve que tous les coachs dans les différents clubs travaillent assez durement pendant les intersaisons dans leur recrutement et en cours de saison. Et tant mieux, plus ça va progresser.
Ouais, c'est homogène, quoi. C'est bien.
Ça aidera peut-être aussi au bout d'un moment d'avoir des deals télé plus intéressants qu'aideront les différents clubs. Que du positif, j'ai envie de dire, sur toute cette saison-là, en tout cas de ce point de vue.
Exactement, une belle saison pour toute la Ligue et notamment pour l'UFAB, du coup. Du côté de l'EAB, maintenant, on a appris simplement le départ de Ross Jacobi, le meilleur scoreur de l'équipe cette saison. Il faudra pallier ce départ pour aborder la saison prochaine. Cholet, maintenant, victoire pour ce dernier match de saison régulière contre Bourg-en-Bresse sur le score de 89-86. Cette victoire permet de mettre une première pièce dans la tête de cet adversaire que les Choletais vont très vite retrouver car ils s'affrontent au premier tour des playoffs. Avec cette victoire, Cholet finit la saison avec 21 victoires et 9 défaites, ce qui leur permet de finir à la quatrième place après être resté longuement en tête du championnat. Mais la seconde partie de saison s'est un peu plus mal passée que la première. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire, à Cholet depuis quelques années. Il y a forcément une moitié de saison qui se passe moins bien que l'autre.
C'est dingue. Ouais. Chaque saison.
Tous les ans, on se dit, c'est maintenant. Ah, peut-être pas en fait, mais quand même, une quatrième place.
Il y a des playoffs à faire. Donc.
Voilà, quatrième place, avantage du terrain.
Ok.
Contre Bourg-en-Bresse, qui a fini cinquième du coup. Sachant qu'au match aller Bourg-en-Bresse avait mis plus de 20 points à Cholet.
Oui.
Et là, du coup, petite victoire de 3 points. On va espérer que ça le fasse.
Je crois qu'on dit Bourg-en-Bresse, par contre.
Ah oui?
Sans
oui.
vouloir.
Ok, autant pour moi. J'ai toujours dit Bourg-en-Bresse. Même, je me souviens, à un moment, ils étaient en Ligue 1. J'ai toujours dit Bourg-en-Bresse.
Si Bourg-en-Bresse
en Ligue 1, ça me dit
quelque chose. Les deux sont tolérés, on va dire.
Mais quand
t'es là-bas, c'est bon.
Je crois que là-bas, ils disent Bourg-en-Bresse.
Ouais.
Ah aussi.
Ouais,
Bourg-en-Bresse et non, on dit Bourg-en-Bresse.
Voilà. Je suis un vrai Bourg-en-Bressois.
Bon tu dis Bourg quoi, tu dis Bresse, les Bressans.
Ouais, sûrement. Si tu le dis. Mais
non, mais si, ah oui, comme tu... ça, non, tu remplaces le nom, tu dis les Bressans au lieu de dire Bourg-en-Bresse. Okay. Bah, ça t'offense personne.
Je note pour la prochaine fois, j'écrirai comme ça. Mais ouais, du coup, un tour de play-off intéressant, que les Choletais peuvent passer, et qui sublimerait leur saison, parce que je pense même de pas passer ce premier tour, ce serait un peu décevant, au vu de la saison où ils ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, longuement premiers. Donc on va voir comment ça se passe et on espère que ça se passera bien, évidemment. On va passer au SCO Hand pour le dernier match de la saison. Le SCO Hand ne change pas son habitude et perd ce match sur le score de 29-39. Le club est donc sportivement relégué, mais on sait qu'il y a de fortes chances qu'il soit financièrement maintenu.
Ouais.
C'est ce qu'on a dit tout au long de la saison, ce que Amaury nous disait notamment.
C'est ça. C'est qu'en fait, pour rappeler aux gens qui ne le sauraient pas, en fait... il n'y a pas de club qui puisse monter en Pro League, en deuxième division. Il n'y a aucun club de N1 qui a l'argent et la structure pour monter. Donc, a priori, sauf retournement en situation, le SCO va rester administrativement. Ce qui est complètement dingue, quand même, c'est que ça fait 3 saisons de suite que le SCO est dernier.
Voilà.
C'est fou, dans un championnat où il y a des relégations, ça fait 3, tu peux terminer 3 saisons de suite dernier.
Ouais. Voilà. Peut-être que
le SCO, bonnet d'âne, voilà.
Ce serait pas si mal de descendre, peut-être de refaire une saison.
Je sais pas.
L'année dernière, ils se sont repêchés.
Ouais, pareil. Mais ouais, l'année d'avant aussi. Enfin, l'année d'avant, c'était pas économique, c'était parce qu'en fait, il y avait un changement de nombre de clubs.
C'est ça, oui.
Donc, à chaque fois, l'année dernière, ça sort bien. D'ailleurs, ce qui est complètement, d'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, l'année dernière, c'est que c'est complètement bête d'avoir rajouté les clubs en sachant que tes clubs actuels ne peuvent pas, avoir, n'ont pas les sous, parce qu'il y a aussi, en plus de ça, donc, des sanctions à l'intérieur du championnat avec des clubs qui ont des manquements financiers. Et donc, t'as des sanctions de 4-5 clubs qui ont des sanctions de 4 points.
Ouais.
Juste parce que ils ont pas les sous, un peu comme au foot avec la DNCG, il y a ça aussi au monde. Et en fait ça fausse le championnat, je trouve ça.
L'exemple le plus proche c'est le hockey avec la Ligue Magnus. Où t'as pas de descente vraiment
C'est ça.
Au niveau
mais à la base la Pro League n'est pas une ligue fermée, c'est ça qui est quand même différent. C'est quand même très mais c'est un bel exemple parce que ça devient une ligue fermée en fait. Ouais. Ce qui est moche.
Après, alors c'est moche sur le principe.
Parce que c'est pas la culture du
monde. C'est ça, oui.
Il y en a pas honte.
Mais si ça peut éviter qu'il y ait beaucoup plus de clubs qui déposent le bilan parce qu'ils font l'ascenseur.
Mais dans ce cas, faut l'annoncer.
Il y a d'autres.
Ah ça oui, mais ça sera toujours compliqué de dire qu'on va privilégier l'argent au sport ouvertement.
C'est plus sur les réformes globales, tu vois. L'exemple de ces équipes, ça c'est une décision qui n'a pas de sens selon moi. Et puis à mon avis, la ligue a tout intérêt à développer mieux son, un peu comme le foot aussi, c'est le même problème, c'est développer mieux son produit, trouver l'argent où ils ont besoin et aider les clubs aussi à se structurer. Et bref, c'est, voilà. Mais en tout cas, on aura peut-être le SCO en Pro League. Je sais pas si t'as l'info, mais donc le SCO a un nouveau coach.
Non, j'avais pas vu l'info.
Le SCO a un tout nouveau coach, ça vient de tomber là, je crois, il y a pas si longtemps que ça.
Trouver son nom.
Je vais te trouver son nom tout de suite. C'est Joël Da Silva,
d'accord,
qui a été notamment entraîneur de Toulouse, donc en première division, de Saint-Raphaël, de Tremblay qui joue dans le même championnat, et également de Toulouse qui est une équipe féminine qui joue en première division. Donc voilà, je pense que il a l'air d'avoir un beau CV. Pour le coup, je suis honnête, je ne le connais pas, mais je pense qu'il a un beau CV. Je n'étais pas au courant, mais du coup, Fabien Courtial ne renouvelle pas, à mon avis, pour l'année prochaine.
Est-ce que ça avait été réellement anticipé?
J'ai même pas vu.
J'ai pas souvenir quand il y a eu le changement d'entraîneur que ça avait été annoncé comme une période de transition ou en fonction des résultats on en discuterait.
Là faut est tombé, c'est le coach de l'équipe, voilà. Pas de merci Fabien.
Bon.
Ce club c'est hyper bien géré, c'est le SCO.
Des petites surprises de temps en temps, ils viennent nous faire ça au moins
on espère que l'année prochaine il y aura au moins on sera avant-dernier, quoi.
Au moins deux victoires, s'il vous plaît. Parce qu'il me semble qu'il n'y en a eu qu'une cette saison.
Deux pour le coup.
On va au moins trois alors.
T'es dur.
Autant pour moi. Voilà, on va passer sur un SCO qui s'est un peu mieux porté, on va dire, au long de la saison. Peut-être pas ce week-end, mais c'est le SCO Foot, évidemment, qui a perdu donc 2-0 à Lyon. Mais c'est une défaite anecdotique, finalement, puisque les Angevins étaient d'ores et déjà maintenus. Mathéo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce match?
C'était un match intéressant déjà parce que le SCO a fait un gros turnover quand même. On a joué avec beaucoup de jeunes à plein de postes clés, donc c'est intéressant, ça prouve qu'il y a de la continuité. On a des jeunes qui ont vraiment fait un beau match, je pense à Courcol, voilà, on en parle beaucoup, on en a beaucoup discuté autour de ce plateau, et puis vraiment là il a fait peut-être son meilleur match de la saison, son match le plus intéressant. Il a quand même des belles qualités, il a des améliorations à avoir bien évidemment, notamment tactiquement dans les petits espaces, techniquement, mais il y a quand même du bon. Raoul Izoa aussi a fait une rencontre intéressante. En fait, c'est tout le groupe qui a été plutôt soudé à ce niveau-là. Après, l'OL était dans une atmosphère différente. Forcément, c'était le dernier match de Lacazette, peut-être de Cherki aussi. Il y avait cette atmosphère-là qui était différente, qui faisait que c'était vraiment très difficile d'aller chercher des points. Et puis, il n'y avait pas vraiment l'intérêt. Donc, je pense que ça a été plus de l'amusement qu'autre chose. On a eu des belles garanties pour la saison prochaine et on va pouvoir en discuter après, mais vraiment moi j'ai été plutôt conquis par cette performance quand on voit en tout cas sur le papier quel était le 11 du saut.
Malgré la défaite, c'était un match où les Angevins ont été conquérants
et ont eu des périodes de domination importantes, notamment dans les 15 premières minutes et puis sur la fin du match où la victoire de Lyon semblait actée et que donc le SCO avait plus ou moins repris la main. Mais je tiens à dire qu'il y a pas, même si on prend juste le bilan statistique, mais il y a pas tellement d'écart de tir entre le SCO et Lyon. Alors c'est jamais vraiment révélateur les tirs, mais quand même c'est assez bien de se dire que le SCO a tiré 13 fois au but face à Lyon qui a dominé la plupart de la rencontre. Donc ce match du SCO est pour moi assez intéressant et peut-être de bon augure pour la saison prochaine, même si c'est un dernier match de saison, donc on peut rien en tirer généralement pour l'après.
Voilà, on espère que ce sera le cas.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu être devant Nantes. Et je sais pas s'il y a une grosse différence en termes de revenus.
Au moins 100 000, ouais.
Et mine de rien,
c'est quand même un mois de salaire de Adrien Hunou.
Comme c'est de plus en plus compliqué pour passer correctement la DNCG.
Ah, oui, non, bien sûr.
Après,
Lyon va quand même, était favori aussi sur le match.
Oui, je pense que le score comptait pas du tout sur cette.
Lyon avait quelque chose à jouer aussi, contrairement au SCO.
C'est ça.
Avec gros à jouer même. C'est vraiment au SCO.
Et puis surtout, le SCO, donc tu as mentionné, il y a eu turnover, c'est parce qu'il y a beaucoup de blessés, en fait.
Oui.
Il y a énormément de blessés. C'est hallucinant.
Malheureusement que c'est la fin de la saison. Parce que sinon.
Ah bah oui. Jouer avec ses blessés. Bah là, même dans le groupe. Moi, j'ai pu un peu suivre la réserve du SCO cette année. Dans le groupe là du SCO en Ligue 1, donc sur le dernier match, il y avait au moins 5 ou 6 joueurs qui ont déjà joué en réserve.
Okay. Ouais.
Donc Courcoul, il a joué en réserve. Camara, il revient de loin aussi. Prosper Peter, qui était aussi chez U19. Comon, qui est rentré, et
Machine aussi.
Et Machine, ça, Laurent Machine, qui est Bon, c'est bien, effectivement, ça donne tant de jeux à tout le monde, c'est super. Mais ça montre aussi beaucoup qu'il y a il y a pas mal de blessures.
Ils ont pas ramené l'US Diony de la réserve.
Et il a quitté le club, hein.
Ah!
Ça fait quand même 6 mois.
Il a été prêté.
Pour faire le deuil de l'US Diony.
J'ai dû voir l'info, mais j'avais oublié.
Mais Adrien Hudou, donc, j'étais témoin ce week-end, a disputé entre guillemets, puisqu'il est pas entré en jeu, son dernier match sous les couleurs du SCO, après une saison blanche, en professionnel. Et en gros, il a passé les 6 derniers mois en N3 à ne jamais rentrer.
Même
et sur les matchs que j'ai vus, il ne s'échauffait même plus.
Ah oui, d'accord.
Ouais, il n'y avait plus d'entrée, plus rien.
Donc,
mais au placard.
Voilà. Là, pour le coup, c'est le placard du placard.
Ah, c'est le tiroir. Rupture actée, quoi, quasiment.
Ouais. C'est la poche au fond du jean, quoi. C'est...
Ouais,
mais après, voilà, on lui souhaite, parce que ça ne doit pas être facile, donc on lui souhaite de rebondir dans un projet Ligue 2 nationale, je pense.
C'est ça, pour que ça aille mieux les saisons prochaines. En parlant de saison prochaine, Mathéo, on va enchaîner sur ta petite rubrique.
C'est ça.
On va parler du jour du SCO.
J'ai concocté une petite rubrique, comme t'as dit. En fait, je voulais parler du mercato. Je me suis dit que la semaine prochaine, si on préparait un peu plus le truc, on pourrait avoir des potentiels arrivés ou en tout cas des joueurs sur lesquels on pourrait miser comme bonne pioche du côté du SCO. Mais là, on pourrait discuter pourquoi pas des départs ou au moins des éléments plus faibles dans l'effectif qu'on pourrait voir partir. Je trouvais ça pas tellement intéressant de juger les 29 joueurs, ça aurait vraiment été long et au bout d'un moment je pense qu'on se serait tous plus ou moins ennuyés. Donc j'ai tiré au hasard. Voilà, j'ai tiré au sort 10 joueurs. J'ai pris quelques statistiques aussi comme ça on en aura. J'ai essayé de varier quand même hein, quand j'avais mettons 6 joueurs défensifs voilà, si derrière j'en avais un 7e, c'était plus ou moins compliqué. Donc ça permet d'avoir un panel plus large et puis de parler de plus ou moins différents types de cas. Alors le premier joueur que j'ai tiré c'est Florent Hanin qui a joué 33 matchs cette saison sur 34 possibles à 35 ans, c'était sa première saison en Ligue 1. Un but, deux passes dé, deux cartons jaunes, des gros matchs notamment au Havre et puis sinon contre Nantes et Strasbourg les derniers en date. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Florent Hanin on le garde l'année prochaine à 36 ans bientôt?
Tous les jours. Il a été vraiment, je trouve, très carré.
Maillon essentiel.
Ah ouais, franchement, bah même contre Lyon, il y a une action où il est vraiment impressionnant. Enfin, franchement, combatif. Bon, alors forcément, bah un peu comme toute la défense du SCO. Parfois, il y a des errements défensifs, ouais, mais c'est logique.
Il y a trop d'air.
Franchement, offensivement, il a fait le taf. Alors qu'à rappel, à la base, c'est plus un défenseur central quand il arrive du PFC. Donc non, franchement, ouais, on le garde tous les jours. Après, oui, forcément, il y a l'âge, mais grosse mentalité, gros volume, donc ouais, on le garde.
Ça, moi, j'ai limite envie de dire que l'âge, ça peut être même un bénéfice, parce qu'on sait qu'on a des joueurs, des vétérans qui peuvent être sur la touche de plus en plus, voire...
Ouais, mais même, pourquoi pas capitaine?
Pourquoi pas, voilà, tu vois,
ou vice-capitaine, mais
l'âme
voilà.
De leader qu'il peut avoir, si avec Abdi un peu d'ancienneté, ouais. Avec de l'expérience... ouais, pour moi, il faudrait le garder aussi. Du coup.
Surtout en tant que défenseur, je pense qu'il y a au moins peut-être au moins deux bonnes saisons s'il continue comme ça encore. Un autre défenseur, du coup, c'est Jordan Lefort qui lui a joué l'entièreté des matchs en Ligue 1. Pour le coup, il est même pas sorti cette année. Voilà, beaucoup de constance aussi. Jordan Lefort, une passe décisive. C'est pareil, c'est la valeur sûre de la défense angevine.
Oui. Après, peut-être c'est un peu moins que Hanin. Je pense qu'il est un peu moins fort là-dessus, mais oui, après, voilà, quand tu fais 34 matchs, que tu rates pas une minute, je pense que t'es quand même assez fiable. On va le garder quand même. Mais pourquoi pas un peu de concurrence, parce que après, je sais pas quel âge il a, Lefort.
Lefort, il est proche de la trentaine.
Hein. Ouais.
Il est proche de la trentaine.
Pourquoi pas un peu de concurrence, parce que c'est vrai qu'il en a peut-être manqué et on a eu Biumla et Lefort, mais on a eu personne derrière, parce que Otulji et Ousmane Camara n'ont pas été à la hauteur, même si Ousmane Camara termine plutôt bien. Donc pourquoi pas un peu de concurrence, mais on le garde, oui, pourquoi pas, oui, clairement.
Ouais, je suis plutôt d'accord, surtout après, il faudra ramener, je pense, la défense est un des points qu'il faudra renforcer du côté du SCO, parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de trous d'air, beaucoup d'erreurs avec des passes dans le dos des défenseurs, genre de choses qui sont arrivées quand même assez régulièrement. Donc je sais pas si évidemment Jordan Lefort n'est pas le maillon faible de cette défense, je pense pas, mais ouais, comme tu le dis, un peu de concurrence pour que les joueurs soient motivés et qui donnent leur meilleur sur le terrain.
Il y a eu Abdoulaye Bamba aussi quand même qui a évolué un peu en défense centrale,
un petit peu, qui a pu être fiable sur certaines rencontres, ouais, même s'il se faisait vieillissant. Après, le gros problème aussi de la défense du SCO en soi, c'est que pour quand on voit le football moderne d'aujourd'hui où on a des joueurs qui concrètement vont très vite, prennent la profondeur, etc. Si le SCO joue trop haut, ça commence à être compliqué. Et c'est là où peut-être on doit aller chercher un défenseur plus rapide, ouais, au moins pour suppléer Emmanuel Biumla. Pour rester en défense, du coup, je me suis fait voler ma transition, Alex, mais j'avais tiré Ousmane Camara. Qui a joué que 3 matchs cette saison, qui est sorti du placard récemment. Qui arrive en 2022 hein, pour 2,2 millions d'euros du Paris FC, qui a beaucoup évolué en N3. Je trouve qu'il a été plutôt intéressant sur les dernières
sur
rencontres.
Sur la fin, ouais, justement, Lamine Mbaye, le coach de la N3, me disait que oui, il était très content, très fier d'avoir pu donner du temps de jeu à Ousmane Camara et de l'avoir aujourd'hui, de le voir récompensé avec des titularisations en pro et des bonnes performances qui plus est. C'est compliqué. Après, en fait, ce qui est difficile à juger, c'est que là, il y a que 3 matchs. Donc, si tu repars sur un an et qu'au final les 3 matchs sont un peu trompeurs, bah, tu te fais un peu avoir. Avoir. Moi, j'avoue, je suis mi-figue mi-raisin, on va dire 50-50.
Ouais, moi, j'ai envie de dire, c'est pas que ça coûte rien, mais ça pourrait être intéressant, je pense, de leur signer au moins une année pour voir ce qu'il peut donner, de faire jouer plus.
Non.
Ah, ok. Attends, moi, il me semblait. Mais est-ce que c'est un joueur jeune? Donc, qui a des choses à prouver là sur ces 3 matchs, s'il a été bon, pourquoi pas essayer de le faire jouer plus, de voir s'il peut être constant, s'il peut jouer 90 minutes régulièrement. Et si c'est le cas, bah, on pourra le garder un certain temps.
Ouais, c'est intéressant. Pourquoi pas en tant que cinquième défenseur? Est-ce qu'on prend le pari de le garder en 4, de recruter un troisième? C'est ça la question.
Ouais.
Mais en 5, je pense qu'on garde tous les jours. On passe sur un joueur offensif. Alors là, c'est pareil. C'est un joueur qui a des statistiques assez honnêtes, mais qui pour le coup aurait pu mieux faire. C'est Jim Alevina.
Ouais.
Forcément, 28 matchs cette saison, un but, 4 passes décisives. Il est arrivé libre de Clermont. Il a vécu une saison concrètement irrégulière avec quelques fulgurances. Alevina, je pense qu'on garde tous,
ouais, garde.
Mais il faut peut-être qu'il se concentre un peu plus.
Ouais, ouais, bah on attend plus évidemment de lui, mais après ça a été presque le moins pire des ailiers.
Ça a été une saison compliquée pour nos ailiers. Ouais.
Bah c'est ça. Donc franchement oui, on garde. C'était que sa première saison, donc clairement même il a montré qu'il pouvait avoir des bonnes périodes. Donc non, on garde. Ouais.
Ouais, et puis de toute façon, je pense qu'il y aura, pas beaucoup d'offres sur Alevina. Donc bon, si
il a pas crevé l'écran non plus.
Voilà, c'est ça. Donc le SCO a pas tellement le choix de le garder, et en espérant qu'il fasse mieux les saisons prochaines. Après, il me semble que c'est lui qui met le but contre Nantes.
Oui, c'est lui qui le met. Ouais.
Bah, le but très important. Bah,
c'est ça pour le seul but de sa saison.
Merci, Jim.
Il nous sauve, donc rien que pour ça, on pourrait le garder.
Dans tous les cas, on aura un gros turnover du côté des ailiers à Angers cette saison. Ça va être assez intéressant de voir le mercato. Un autre joueur qui est arrivé cet été libre d'Arabie Saoudite, c'est Haris Belkebla, forcément, qui a fait une très bonne saison. Osco, qui a joué que 22 matchs parce qu'il a été blessé sur les dernières rencontres et puis aussi un petit peu en début de saison, une passe décisive, et on a senti que le Osco avait un petit coup de moins bien. Alors c'était pas que lié à sa blessure forcément, mais on peut mettre ça en corrélation quand lui s'est blessé. Donc Haris Belkebla, on garde tous les jours.
Ouais,
pilier,
ouais, titulaire, ouais, plus ou moins discutable, mais oui, discutable. Non, très bon joueur de Ligue 1, peut-être moins de stats peut-être qu'à Bierest, je pense.
Oui.
Il manque peut-être un peu ça, mais sinon, saison correcte.
Peut-être qu'il jouait plus bas qu'à Brest aussi, je pense.
Ouais, peut-être. Mais saison correcte.
Il faudrait juste pas qu'il nous traîne une blessure ou quoi que ce soit.
Oui, aussi.
Plus
oui.
que ça, et qu'il revienne en forme. Mais s'il est en forme et qu'il peut jouer régulièrement, sans souci, évidemment, on garde.
Un joueur qui a profité de la blessure de Belkebla, c'est Yacine Beldine, qui a su s'imposer un peu après. Alors, il était quand même là en début de saison, hein. C'est je crois le 11e joueur du SCO qui a le plus joué en termes de temps de jeu, 1500 minutes, 29 matchs, un but, une passe D. Il est monté en puissance sur la fin de cette saison, il a su s'imposer comme au moins le milieu numéro 4 du SCO. Il peut jouer à tous les postes, hein. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer presque 10, on l'a vu à des moments où Abdelli sortait. Donc ça c'est pareil, Beldim, lui qui était pisté par Toulouse en plus cet hiver, cet été, c'est un impératif à garder.
Oui, après il va être sûrement très courtisé, donc faut faire attention à ça. Je crois qu'il a un peu des touches un peu dans certains clubs en Europe, donc il va falloir faire gaffe, mais oui, en soi on le garde tous les jours évidemment.
Ouais, moi je dirais que c'est une belle offre pour Beldim.
C'est quoi une belle offre pour Beldim?
C'est ce que je me demandais aussi.
Franchement, c'est quoi? C'est 5, hein?
À 5 millions, oui.
5 millions, oui, si 5 tu millions, lâches, ouais. En dessous.
Moi, j'aurais même dit un peu moins, tu vois, 4 ou 3,5 millions. Ça peut le faire. C'est pas un
joueur. De toute façon, Chabal, il va.
Oui.
Il lâchera pour un ticket resto.
Ouais, c'est sûr. Dans tous les cas.
Pour moi, c'est pas un essentiel à garder comme on a eu Belkebla juste avant.
Un autre joueur qui est arrivé cet été, je parle par rapport au joueur qu'on a eu précédemment, hein, c'est Carlen Arcus, qui lui s'est imposé sur son côté droit, forcément, 28 matchs cette saison, une passe décisive. Le SCO a presque retrouvé le Arcus Auxerrois, après un passage compliqué au Vitesse Arnhem. On voit qu'il y a quand même eu quelques difficultés face à des adversaires plus virevoltants. C'est aussi le problème global de la défense du SCO, même si là, c'est vrai que Malik Fofana a été plutôt bien pris, alors pas par Arcus, mais quand même. Qu'est-ce qu'on en fait de Carlen Arcus? Forcément, on le garde, il monte en puissance.
Moi, je suis pas très fan du joueur. Peut-être qu'après, j'ai moins vu sur la fin le SCO. Mais je suis pas très fan du joueur, donc honnêtement, si on peut trouver une autre pioche, je dis pourquoi pas. Après, maintenant, il vient d'arriver, donc il est arrivé il y a un an, donc ça va être compliqué. Mais moi, en soi, je suis pas très fan du joueur, même si, à mon avis, il peut... En fait, c'est un joueur très très neutre, je trouve, donc très moyen. Donc, j'aimerais bien une autre plus-value. par rapport à Nain, tu vois, c'est quand même pas la même chose, ouais. Selon moi. Surtout après, si on a des ailiers qui sont pas très bons.
C'est que il peut rester au club tout en n'étant pas titulaire, en étant
un
remplaçant qui sort très vite du banc, qui rentre souvent. Mais d'une manière générale, en défense, si on peut avoir du renfort, ce serait forcément bénéfique, quitte à mettre en concurrence les défenseurs, à mettre les défenseurs qu'on a actuellement dans le 11 sur le banc, quitte à les faire rentrer, à les faire jouer certains matchs pour varier cette défense et trouver la meilleure composition qui conviendrait à l'effectif.
Après, le problème, c'est aussi que les latéraux, ça coûte cher.
Oui.
Même très cher. Arcus, il a ce plafond de verre, mais il a quand même une certaine constance dans son plafond de verre, on va dire.
Ouais.
Il a pas de fulgurance, mais il a pas des baisses drastiques non plus dans son niveau de jeu. Il est pas si irrégulier que ça. Donc ça peut être plutôt intéressant. Et puis dans tous les cas, on peut le mettre en concurrence aussi avec Raoul Izoa, même si moi je préfère Raoul Izoa un petit peu plus haut. Mais ça peut être une idée. En tout cas, on verra ça la saison prochaine parce qu'il est plutôt jeune, Raoul Izoa. Ouais. Un autre joueur, lui aussi très jeune, c'est Sidiki Chérif. Alors lui, pour le coup, c'est plus compliqué parce qu'il a été blessé toute la saison, même s'il est revenu un petit peu, mais titulaire en début de saison aussi parce que Dujeu avait pas trouvé son neuf. Depuis, ça y est, on l'a trouvé, notre neuf. Donc, est-ce que Sidiki Chérif, il a une place dans cet effectif-là en tant que, pourquoi pas, numéro 2 l'année prochaine si vraiment on a une bonne pré-saison? Ou alors on l'envoie en prêt par exemple parce qu'il est encore très jeune, ou on le fait jouer avec la réserve? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour Sidiki Chérif la saison prochaine?
Le prêt, c'est pas bête. Après, c'est vrai qu'au SCO, on a vu plein d'attaquants qui ont surpris et qui ont eu leur période. Le meilleur exemple, je pense, c'est Diony, d'attaquants qui n'étaient pas bons à un moment donné, qui sont relancés quand même. Donc à la limite, Chérif en 2-3, tu vois, avec le pôle en 1 et deux mecs à la bataille avec Chérif, à la limite. C'est vrai que le prêt, c'est quand même un peu mieux, je pense, parce qu'il est quand même très jeune.
Ouais, ça, parce que aller jouer en réserve.
Mais après, tout est possible. J'ai pas forcément d'avis, parce qu'après, c'est difficile de faire un avis. Il a pas fait beaucoup de matchs.
Ouais, mais
depuis, on l'a pas vu depuis longtemps. Hein.
Dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'il faudrait pas le vendre ou qu'il parte du club. Parce qu'un joueur comme ça de 18 ans, ça peut toujours être un gros potentiel. Il peut se révéler très important sur une saison, même si c'est pas en tant que titulaire, ça peut être en tant que super sub, pareil, qui sort vite du banc et qui apporte beaucoup de fraîcheur et de vivacité.
Surtout que le SCO commence dans sa formation à être un peu plus intéressant, en tout cas moi je trouve, par rapport aux dernières années. Un joueur qui lui n'est pas issu de la formation, c'est Esteban Le Poll. Forcément, bon, c'est le hasard, hein. C'est le hasard, c'est pas moi qui décide. 13 buts toutes compétitions confondues depuis janvier, 4 doublés. C'est quand même des stats assez impressionnantes. Forcément, il sera courtisé, mais je pense qu'on en a déjà discuté. Nous, on le voit rester à Angers une saison de plus à minima. Donc forcément, je pense qu'on se pose pas la question de est-ce qu'on garde ou pas, mais est-ce que si on a une offre supérieure à 5 millions d'euros par exemple, on le garde ou pas? La question, elle est plutôt là.
Non, on le garde parce que il peut rapporter plus, je pense.
À 8.
À 8, je te signe. Allez, bon.
À 8, je check.
Chaban signe.
Chaban
nous, on signe. Il y a 2 millions, il peut signer.
Ouais, je pense que. Allez, à 160 000, il signe.
C'est quoi la plus grosse vente du SCO? C'est vrai que t'as une idée ou pas?
Je pense que c'est Baoya.
Franchement, je suis pas.
Il y a pas eu un
Mohamed Ali Chou,
Ali Chou, il est parti.
Chou, c'est 10 millions, je crois, c'est 10. C'est 10 millions à la Real Sociedad.
Et après Unai, il est parti à 8.
Nicolas Pépé, il part.
Comment?
Non, c'est pas
si cher que ça.
Il me semble pas Nicolas Pépé.
Non, c'est pas si cher. Non. Mais par contre, je crois que
j'ai vu la plus-value par contre, j'ai vu quand tu pars en Angleterre, peut-être.
Mais justement, j'ai vu une info Ait Nouri. Ouais, le SCO va récupérer 50% de la revente, pas le pourcentage à la revente, c'est... la revente.
J'ai l'info du plus cher, c'est Jeffrey Adelaide.
Ah bah oui, 25
millions.
Derrière, c'est Karl Toko Ekambi, 18 millions, Nicolas Pépé, 18 millions quand même, et Ali Chou, 13 millions.
Ok.
Oh, on avait le top 1 après.
Ah voilà. Et ouais, donc Ait Nouri, donc ça fait quand même longtemps qu'il est parti.
Et puis il commence à performer.
Exactement.
Très bien,
on récupère la moitié de la vente s'il est vendu à De Wolverhampton. Donc je pense que c'est un. Comment?
C'est énorme.
Ah bah oui, c'est énorme.
C'est bien, non mais c'est bien.
C'est énorme. C'est-à-dire que si il part pour 12 millions de Wolverhampton, on récupère 6.
Mais il partira pour plus.
Mais après, il peut partir pour plus. Et puis l'autre affaire qui peut. Enfin, non, l'autre truc aussi, ce qui est intelligent de la part de Chaban, c'est qu'à l'époque, il n'était pas parti pour beaucoup. moi je trouvais que c'était décevant qu'il parte aussi vite. Et au final,
rapport de gros quand même.
Il a bien misé sur jeune aussi. Hein.
Ah bah oui, c'est ça. C'est un début je crois.
Pas souvent qu'on dit ça, mais bien joué, Chaban.
Pas souvent, oui.
Ouais, on va éviter de trop prononcer.
C'est pas trop fort.
Dernier joueur. Alors ça, pour le coup, bon, je pense que on a déjà la réponse, mais c'est le tirage au sort qui a voulu ça. Juste après Esteban Le Poll, Ibrahim Anian, forcément, qui a été écarté du groupe.
Ah, donc on a une autre réponse.
On a déjà la réponse dans tous les cas, puisqu'il a été écarté il y a 3 semaines pour mauvais comportement et que dans tous les cas, on le voit très peu refoulé.
Rien que pour le quart de finale de Coupe de France.
Bien d'accord.
Ça suffit. Allez, hop, c'est balise. Merci pour tout.
Non, voilà, ça fait 2 saisons quand même qu'il est en dessous. Qu'il arrive pas.
Ah, il a sa période où on y a cru et puis bon.
Ah ouais, on y a cru, ouais, peut-être un mois, c'était en octobre.
Ouais.
Moi, il enchaîne 2 matchs avec des buts. Allez, vas-y.
C'est quand même, tout le temps, il a du mal, il marque pas. Et quand il marque, ça dure pas longtemps. Et souvent, il loupe des dingueries. Là, cette année, le nombre de fois
où. Confiance, ça se voit, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est le souci. Il a été laissé au placard au début de la saison. Donc voilà.
J'ai noté quelques infos mercato avant de finir pour le SCO. Donc quelques infos que vous avez peut-être dû voir, mais bon, je vais quand même les faire passer. Il y a Fofana donc qui devrait partir. Hein, ça, c'était annoncé depuis quelques temps. On a déjà quelques pistes en Angleterre ou en Italie, Newcastle, Southampton ou le Torino. Et le SCO se pencherait donc sur Hervé Kofi comme remplaçant à potentiel prêt et des négociations en cours avec Lens. Alors selon les informations d'Actu Cameroun, l'attaquant international camerounais du TFC aux 5 buts en Ligue 1 cette saison, Franck Magri pourrait revenir. Rosco, qu'il a déjà connu, lui qui a 1 an de la fin de son contrat, est mis depuis peu sur la liste des transferts et apparu 30 fois en Ligue 1 cette saison. Autre info, bataille en vue entre Rennes et le SCO pour Raki Aouni, révélation en D1 tunisienne cette saison. À 20 ans, le joueur de l'Étoile Sportive du Sahel, international U20 tunisien, est estimé à 1 million d'euros et évolue sur l'aile droite de l'attaque. Attention, ceci dit, au club de Louvain qui rôde toujours autour du dossier. Et puis pour finir dans le sens des départs, c'est quasiment bouclé, à en croire les dernières informations du Courrier de l'Ouest, malgré l'envie du club de le conserver. Selon Mohamed Toubachter, après 7 ans passés au SCO, Farid El Melali devrait quitter le club pour Zamalek en Égypte, un voyage au Caire qui se ferait libre. Proche de Gizeh, il toucherait environ 1 million d'euros par saison. Il rejoint donc la liste des joueurs qui devraient partir. Donc Fofana, Nian, Ferra, Abdelli ou encore Zinedine Oulkhaled.
C'est une saison où on a une CAN ou pas? L'année prochaine.
Oui. Pleine saison.
En pleine saison,
il y a un mois de décembre à janvier qui va être un peu handicapante, je pense.
Mmh. Ouais, une fois
de pour ça, pas mal bien. De joueurs.
Ça peut peser aussi dans la balance pour le mercato.
Ouais, sachant que le SCO a souvent des ouais. Bah, il y avait 4 ou 5 Algériens dans l'effectif.
Mmh.
Donc voilà, à voir. Même si c'est vrai que le SCO aime bien avoir des joueurs africains pour le coup.
Ouais, souvent des joueurs.
Donc est-ce que ce sera pris en compte? On verra.
Voilà, on espère en tout cas que le SCO sortira un meilleur mercato de celui de la saison précédente et dans tous les cas un bon mercato. On verra si on a été bon sur nos prédictions des joueurs gardés ou pas. Voilà. Sur les montants des départs de certains joueurs. On suivra ça évidemment tout au long de l'été. Et en attendant, avant de passer aux actualités internationales, on va passer d'abord à la pause musicale. On va s'écouter du Alpha One avec son son Cascade.
Les faux négros scannent, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Les faux négros scannent, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. J'ai gambergé sur le texte et je suis devenu le best quand j'ai mangé le fruit de ma réflexion. Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment fall, ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe.
Dans un autre monde, je serais Philippe Flingo. Le fly neg, fourrure à la Doflamingo. Eh, pour que tu comprennes ce que je dis, je rappe avec le flow, l'oral, Florent, braque, vorante, dirigeable, volant vers Amsterdam, Hollande. C'est pas moi, c'est l'entourage qui décide. Eh, on est plus dangereux qu'une poucave qui dessine. On se prend pour Russell Simmons quand on gère les mailles. Quand on gère les mille, on se prend pour gérer mailles. Un 995, on met les trades sur écoute. Négro soigné, je mets de la crème sur les coudes. Ouais, ouais. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. J'ai le syndrome Tom Sawyer, avoir une meuf qui peut me soigner. Tous les jours je fais une tête d'enterrement comme le fossoyeur. Pour se rendre au taf chaque jour, ma mère prend le tram de 6h20. Je comprends ceux qui utilisent leur flingue. Le crime canalise leur faim. Je suis en mode occupation du terrain comme Bayern. J'arrive à Yèbre, repars en Porsche Cayenne. Je veux faire carrière que du feu dans mon cahier. Des flammes bleues quand je l'ouvre. Même moi je fais deux pas en arrière. Kicker, roi, carré d'as. Les artistes aiment parler d'argent, les banquiers aiment parler d'art. Pulsion inarrêtable, gentillesse, tendresse. SMS caresse, ma main sur tes fesses. J'y vais par étapes. Elle sort une masse, elle sort le chambre. Elle veut qu'on fasse du sport de chambre. Autour de moi, toutes sortes de gens. Y'a ceux qui se moquent des bleus, y'a ceux qui se moquent des blindes. Y'a ceux qui pop le champ, y'a ceux qui pop les guns. Quand je rime, les faux négros se calment. Ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp.
Voilà, c'était Alpha One avec son son Cascade sur le 101.5 FM de Radio G ou le site www.radio-g.fr. On va tout de suite enchaîner avec les actualités internationales et on part aux États-Unis pour vous parler de NBA forcément parce que ce soir commence les finales de conférence qui opposent à l'ouest le Thunder contre les Timberwolves et à l'est les Knicks contre les Pacers. Alors d'abord on va revenir sur ce qui s'est passé en demi-finale de conférence. Je vais partir tout de suite à l'est avec cette série des Knicks qui opposaient Boston. Les Knicks qui en sont sortis vainqueurs 4-2 pardon. Voilà, c'est là aussi une victoire très inattendu avec les Knicks qui avaient fini troisième de saison régulière, mais les Boston deuxième qui étaient champions en titre, que beaucoup de gens voyaient vainqueurs cette saison. On a eu la blessure de Jason Tatum lors du match 4 qui a eu une rupture du tendon d'Achille qui va l'éloigner des parquets un certain temps, qui a pesé dans la balance pour la fin de cette série. Mais on a vu surtout une équipe des Knicks très combative qui a su faire face à Boston et son jeu basé sur le tir à 3 points, et c'est pour ça qu'ils s'en sortent vainqueurs et qu'ils filent en finale de conférence. On a eu une autre surprise dans cette série parce que c'est les Pacers qui affrontaient les Cavs, et ce sont les Pacers qui sont imposés contre toute attente parce que les Cavs avaient fini premier à l'Est, avaient roulé sur toute la ligue et notamment sur la conférence Est. Ils avaient mis 4-0 au premier tour à Miami. Et là, ils perdent 4-1. Alors, on pouvait se dire au début, oui, il y a des absents du côté de Cleveland. Il y avait notamment Evan Mobley, DeAndre Hunter, ainsi que Darius Garland qui était absent. Mais au final, ils sont revenus lors de la série. Et c'est pas pour autant que les Cavs ont gagné des matchs. Ils en ont quand même pris un, mais se sont ensuite fait rouler dessus. Et tout simplement, les Pacers jouaient mieux. Pourtant, c'est une équipe, on le sait depuis le début de la saison, on en parle pas mal, avec notamment Amaury et Florian sur Twitch aussi. C'est une équipe qu'on n'aime pas trop, qui a un style de jeu vraiment offensif. Et des fois, ça circule mal, le ballon circule mal. Mais là, ils ont joué très très bien contre les Cavs, et c'est ça qui a fait que c'est passé. Ils vont donc affronter les Knicks en finale de conférence. Du côté de l'Ouest, on a d'abord les Timberwolves qui se sont imposés 4-1 contre les Warriors de Steph Curry. Steph Curry qui s'était blessé lors du match 1, son retour était attendu pour le match 6. Malheureusement, il n'y a pas eu de match 6 parce que la série s'est finie en 5 matchs. C'est ce qu'a voulu faire les Wolves. Concrètement, quand ils ont su que Steph Curry reviendrait au match 6, il fallait plier ça le plus vite possible et c'est ce qui a été fait. Victoire donc 4-1 sur cette série et les Wolves file en finale de conférence. L'autre série qui était la plus alléchante, c'est OKC qui a affronté les Nuggets. On avait donc surtout l'affrontement entre les deux potentiels MVP, Shai Gilgeous-Alexander contre Nikola Jokic. Cette série est allée en 7 matchs. Cette série était serrée tout le temps, sauf lors du match 7, où ce sont les joueurs d'OKC qui ont mis une pilule, j'ai envie de dire, aux Nuggets, 125-93. Ça n'a pas été très serré et donc ils filent en finale de conférence eux aussi. On aura forcément une saison quasiment inédite parce que d'un côté, ni OKC, ni les Wolves, ni les Pacers n'ont jamais gagné un seul titre NBA. Et pour les Knicks, ça remonte à 1976. Donc cette série de play-offs va forcément marquer l'histoire. On verra ce que ça donne dans les semaines à suivre.
On va continuer et retourner en France donc avec un rendez-vous ce week-end, Paris-Reims, donc la finale de la Coupe de France, mais un match assez bizarre à vrai dire, parce qu'en fait pour Reims ça se situe entre les deux matchs de barrage contre Metz, donc l'acte 1 demain. Selon certains médias, Reims devrait donc jouer un trophée national majeur avec une équipe remaniée, priorisant donc le maintien. Autre situation assez humoristique, c'est le numéro 10 reinsois, Teddy Thomas, qui est parti en vacances. Ça y est, alors que son club joue sa saison en une semaine, écarté depuis quelques semaines, il ne retrouvera donc pas les terrains sous les couleurs du Stade de Reims. Et la question se pose alors, avec quel 11 le club champenois va se présenter samedi soir? Une finale inédite donc. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, de ce fait de voir justement une finale de Coupe de France avec une équipe B potentielle?
Pour Paris, ça pouvait être assez attendu quand même. Mais Reims, c'est étrange, mais c'est la situation qu'il veut, et je comprends leur choix de privilégier le maintien.
Mmh. On dit merci à la Fédé, enfin la Ligue.
Oui, c'est mal fait.
Ouais.
Ils connaissaient à peu près le calendrier.
Mais après, est-ce que tu peux décaler la finale, sachant que derrière t'as la finale de la Ligue des Champions? Après, je sais pas comment ça se passe en interne.
Les barrages
cette année, t'as eu aucune journée en semaine.
Aucune
journée en semaine.
Ouais.
Donc en fait, tu peux gagner du temps par rapport à ça. Et du coup, faire terminer la Ligue 1 plus tôt. Parce que là, c'est peut-être que c'est pas très cohérent. Après, bon, évidemment, peut-être qu'ils s'attendent pas à ce que.
Après, c'est. Enfin, ça a été.
Parce que voilà, mais.
Parce
que
ça soit.
C'est un cas aussi où ils s'attendaient pas à ça, peut-être aussi.
Ouais, bah, bien sûr.
Donc, ouais, mais bon, ils sont capables de décaler, tu vois. Enfin,
s'il n'y a pas la Palenka d'Abdoulaye Touré,
c'est sûr,
on n'en parle même pas.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. En fait. Mais bon, c'est. Ouais, bah écoute, c'est triste, c'est dommage. Ce qui est rageant pour nous en juin, c'est que c'est Reims qui nous élimine.
Oui.
En plus. En quart de finale, que derrière, en plus, ça joue Cannes, qui joue en N2. Et tu pourras jouer une finale contre le PSG, donc c'est dommage.
Non, ça va être particulièrement rageant aussi pour les supporters rémois.
Bah oui.
Pour le coup,
tu peux pas jouer à 100%. Hein.
C'est ça, t'as une finale de Coupe de France, mais tu sais presque que tu vas la perdre.
Ça, toutes les places qui sont prises, les gens qui vont faire le déplacement.
Plus tu dis, tu joues aussi une équipe B du PSG, donc tu peux le faire.
Ah, je pense pas, pour le coup.
Je pense.
T'as plus de match à jouer derrière, donc faut commencer à les reconditionner.
Faut faire gaffe, une blessure bête.
C'est sûr, mais après Paris, je veux gagner tous les trophées, assurément. Ouais, je pense que cette année, l'objectif, c'est de tous les prendre. Ouais. Donc ça rentre en compte. Mais en tout cas, nous, je pense, Alex, en tant que Lyonnais, on est très contents de cette nouvelle.
Oui, quand même.
L'Europa League,
quand
peut-être.
Même. C'est quand même.
Qui peut arriver.
C'est
donc,
toujours mieux que la conférence, c'est
voilà.
Sûr.
Même si la conférence nous aurait fait voyager.
Oui, après, est-ce qu'on a envie de voyager?
Ça dépend pour quelles équipes.
Est-ce qu'il y a les sous pour voyager?
Exactement. Est-ce qu'on est capable de payer les billets d'avion? Pas sûr.
Peut-être
après.
Plus.
Quoi?
Ça, pareil, il va falloir qu'ils...
Parce que ça se trouve, on est en Ligue 2.
Qu'ils fassent le point assez vite, je trouve que c'est un peu... La saison est finie.
C'est pesant.
Ne serait-ce que pour les joueurs, tu sais pas trop où tu vas évoluer. Quand t'entends le cow-boy de Lyon... Pour lui, non, tout est réglé. C'est bizarre. C'est
pas intéressant, c'est trop frustrant parce qu'on a déjà, bon, déjà on a vécu une saison qui est pas facile. Mais en plus de ça, on a vécu toute la saison le couteau sous la gorge en disant bah se trouve en Ligue 2 en fait. Si on va pas en Ligue des Champions, on va en Ligue 2.
C'est ça.
Ah mais avec, bon, là, ça avec de l'optimisme mais aussi. Hein. Oui, même pour toutes les équipes, j'ai envie de dire, c'est enfin le fait de pas savoir, surtout dans ceux qui sont relégués, va pas falloir attendre septembre pour dire ah ben non en fait Lyon est en et en Ligue 2 puis vous êtes repêché. Enfin c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même gâteau forcément que tu fais.
Bref.
Puis ça décale un petit peu tout. On va rester en Ligue 1. Ça n'empêchera
pas Lyon de jouer.
Ce serait très drôle d'avoir un club qui joue la Ligue 2
en Ligue 2 d'Europe. Et là ça pourrait, en admettant Crince,
c'est possible,
ce serait
Crince.
Possible aussi.
C'est vrai, c'est fou.
Deux clubs de Ligue 2 en Ligue
en Europe, ça va être bien représenté. En tout cas, donc on va rester un peu en Ligue 1 avec le limogeage pardon d'Antoine Camboire de son poste d'entraîneur du FC Nantes. Il a été annoncé aujourd'hui. 153 matchs hein, sur le banc nantais, pas de suite, mais 153 matchs quand même qui affiche un bilan plutôt mitigé. Hein, il ne laissera pas une trace positive dans l'histoire du club. Si sa dernière expérience à Nantes était plus intéressante, on va dire, puisqu'il affichait en deux saisons 42 victoires pour 39 défaites. Cette fois-ci, la donne n'est pas la même. 11 victoires pour 14 nuls et 19 défaites. C'est plutôt dur. C'est un choix logique maintenant. Est-ce que Kita va continuer sa valse des entraîneurs, 17 entraîneurs en 18 ans à Nantes. Est-ce que ça va continuer comme ça ou on sent que cet été, ça peut bouger du côté de Nantes, Alex?
Je n'ai aucune idée. Bah, il est imprévisible. Kita, Nantes, c'est catastrophique. C'est un club qui a plus trop d'âme, je trouve. Alors que c'est quand même une histoire énorme.
Ouais, c'est un club public de fou. Ligue 1.
Mais là, cette saison qu'ils ont faite, très anonyme. Il y a 2-3 joueurs qui sont pas mauvais, mais c'est.
Bah, l'effectif est plutôt bah, intéressant. Mais, on peut dire un bon potentiel de ces joueurs.
Que ce potentiel, il est à 6 points peut-être de
finir en Ligue 2
de finir en Ligue 2. Et il a la chance de jouer Monaco de jouer Montpellier sur la dernière journée.
C'est clair
donc ils peuvent être plus bas que ça encore donc je n'ai pas forcément d'avis sur la FC Nantes pour être honnête.
Mais après, Camboire, il a fait le taf hein. Il dit de maintenir
pour le coup. C'est vrai.
Mais le problème du FC Nantes, c'est, vrai, c'est la présidence depuis depuis un certain temps.
Bien sûr.
Hein, on sait, là, ça commence à agacer vraiment tout le monde.
Ça commence à se voir, c'est comme ça. Mais
les supporters, tous les matchs qui sortent des banderoles et qui sont là à la limite insulter le président. Bon, au bout d'un moment, il faut peut-être y aller, monsieur.
Agir, faut agir.
S'il n'y avait que ça. Parce qu'encore, s'il était mauvais dans son choix d'entraîneur ou des joueurs, mais c'est tout ce qui va autour, les déclarations qu'il y a eu sur
les projets,
une gestion globale,
le joueur qui est décédé, quand t'attends ce qu'il a sorti juste après le décès, enfin tu te dis mais mec ne reste pas dans le milieu, casse-toi. Puis bon, par contre ça risque de faire perdre de l'argent au club, ça c'est sûr, mais quand Camboire dans 6 mois on le revoit,
c'est possible. Comme des arcariens,
trucs comme ça. Dès que l'entraîneur est viré à Nantes,
Camboire.
Bon, là, je pense que là, il a peut-être enfin compris la leçon.
J'espère.
On verra ça, on va rester en foot féminin cette fois-ci, donc avec l'OL féminin qui va changer totalement, place désormais donc à l'OL Lyon, nouveau nom, nouvelle identité séparée des masculins et nouveau logo, ce qui n'a pas manqué de faire réagir notamment sur les réseaux sociaux. Petit crochet par l'Italie, donc et la Formule 1, Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end avec la victoire de Max Verstappen à Imola devant Lando Norris et Oscar Piastri. Hamilton se place au pied du podium, un classement qui fait du bien à Ferrari après la frayeur lors des qualifications qui voyait donc Hamilton se placer juste derrière Leclerc, 12e, le Monégasque qui finit à la 6e place de ce Grand Prix. Côté français, Ocon a abandonné au 28e tour. Pierre Gasly, a fini 13e. Mais la bonne surprise vient du rookie Isaac Hadjar qui termine à la 9e place et enregistre donc 2 points. Cédric, je te vois qui réagit.
Dis-moi ouais. Il y en a marre de la FIA.
Encore ?
Ah, mais non, mais.
J'entends ça depuis 5-6 ans.
Mais
t'as sûrement raison.
Là, t'as. Allez, on va peut-être dire à 200 mètres. Au même endroit, une voiture qui s'arrête. La première, c'est grâce à Ocon, ça relance la course. On sort virtual safety car. Donc forcément, ça permet à Verstappen de garder 18 secondes d'avance, bah, forcément, il est tranquille. Heureusement, au même endroit, je sais plus si c'est pas une McLaren qui se... Non, une Mercedes, pareil pour le même type de problème, coupure du moteur, enfin, qui s'arrête. Et là, on sort la vraie safety car. Du ouais. coup, forcément, t'es tranquille pour rentrer les pneus. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont voulu créer un pseudo suspense, alors que bah en fait, normalement, c'est double safety car et ça change complètement la course. Parce que sur virtual safety car, t'es pas obligé de rapprocher le peloton. Tu dois juste rouler moins vite et tu okay. peux pas doubler. Donc ouais. Ils ont du mal sur les règlements, à être constants, enfin, même ne serait-ce que sur les pénalités, sur les autres grands prix qu'on a eu. On va voir ce qu'ils vont nous inventer ce week-end à Monaco. Normalement, c'est le dernier grand prix Monaco, on va dire classique, puisque normalement, l'année prochaine, ils veulent imposer au moins 3 arrêts, soi-disant pour relancer la course. On verra bien. Et c'est quasiment acté que c'était le dernier grand prix cette année de, enfin, pour les années à venir de d'Imola.
Eh bah, ben, écoute, c'est une bien triste nouvelle. C'était quand même un GP historique. Mais nous, on va rester en Italie avec le Giro, 10e étape aujourd'hui, et un contre-la-montre qui a vu le coureur de la Lidl Trek, Dan Hull, l'emporter devant Joshua Tarling, vainqueur du précédent contre-la-montre au classement général. Isaac Del Toro garde son maillot rose, mais perd de l'avance et voit son coéquipier de la team UAE, Juan Ayuso, revenir à 25 secondes. Et puis en tennis, après le Master 1000 de Rome, l'après-Master 1000 de Rome s'installe, et l'avant Roland Garros aussi. Logiquement, les qualifications continuent avec la victoire aujourd'hui de Lucas Van Hage devant sur Adrian Manarino en 2-7, 6-3, 7-5. Et puis la grosse surprise, c'est la victoire du français Titouan Drogué, tombeur de Borna Soric, tête de série numéro 1. Autre surprise du côté des féminines, cette fois-ci avec la victoire de Daphné Mpetji-Pericard, 16 ans, face à la numéro 199 mondiale Gabriela Knutson. À noter aussi que l'ATP d'Hambourg a commencé il y a une journée. J'ai écrit une heure, c'est quand même il y a une heure, voilà, ça a commencé il y a une heure à Hambourg. Non, Davidovich Fokina a battu 2-7, 6-3, 6-3 Gaël Monfils, et puis Alexander Müller jouera quant à lui demain contre Alexander Zverev en huitième de finale, ce sera à 16h.
Voilà, parfait pour le JT international. J'ai juste rajouté une information. On parlait tout à l'heure de Leïla Lacan, qui avait remporté le championnat féminin. Elle veut aussi jouer en WNBA.
C'est vrai.
Parce qu'elle avait été draftée par Phoenix et la WNBA qui avait repris donc hier soir, il me semble. Non, c'était samedi soir. Il n'y avait pas de match de NBA exprès.
Et on l'a reçu dans ce studio, monsieur voilà.
Lam. Ouais, oui, oui.
Vice-champion olympique quand même.
Ouais.
Pas n'importe qui. voilà, donc on suivra un peu cette saison de WNBA qui est donc la NBA féminine aux États-Unis.
Ça fait deux saisons qu'il a été drafté, ça, de mémoire.
Bah, en fait, c'est que la draft, tu draftes sur une saison, mais comme c'est l'été, c'est en différé avec.
C'est pour ça qu'elle a pas joué tout de suite.
Donc là, je sais pas même pas si elle a joué le premier match ou pas, parce que la saison féminine de basket en France, c'est terminé.
Ouais, c'est juste de finir, oui.
Mais normalement, il me semble qu'elle va jouer quand même des matchs si elle est prise dans le roster. Elle va jouer des minutes en WNBA cet été. Voilà, l'émission touche à sa fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et on vous souhaite une bonne soirée.